Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La mort d'un géant des lettres américaines, Tom Wolfe était à la fois un immense journaliste et l'auteur de succès planétaires comme Le Bûcher des Vanités ou L'Étoffe des Héros. Avec Bernard Lehu, nous allons revenir dans un instant sur l'œuvre et la personnalité de Tom Wolfe. Effervescence à Cannes avec l'avant-première de Solo, le nouvel épisode de Star Wars. À l'affiche également Spike Lee, Spike Lee en sélection officielle pour son film Black Landsman, il y a 3 cas. Hors compétition, le sulfureux Lars von Trier et les 40 ans de Grease avec John Travolta nous rejoindront sur la croisette Stéphane Boutsock et Anthony Martin. Et puisque le cinéma est à la fête, nous vous offrons aujourd'hui le coffret Prestige des 95 ans de la Warner contenant 3 chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick, Shining, Orange Mécanique et Full Metal Jacket. Enfin, à 85 ans, l'actrice Françoise Fabian se lance dans la chanson. Un premier album signé par la fine fleur des auteurs et compositeurs français, Julien Clerc, Vincent Delerme, Charles Aznavour, Alex Baupin ou encore la grande Sophie, Steven Bellery a rencontré l'inoubliable interprète de Manu Chémeau.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
L'écrivain et journaliste américain Tom Wolfe est donc mort hier à l'âge de 87 ans. Avec lui disparaît l'un des géants des lettres américaines, auteur de livres mondialement célèbres.
Comme Le Bûcher des Vanités, son premier roman en 1987, un tableau au vitriol du New York des années Reagan. En un seul livre, Tom Wolfe réussit la prouesse de faire entrer une ville entière du haut en bas de l'échelle sociale, des loups de Wall Street aux dealers du Bronx, magistral. Ce talent, le romancier, le devait aussi à sa pratique de ce que l'on a appelé le nouveau journalisme. Des enquêtes retentissantes et surtout de hautes volées littéraires donnant lieu à des récits qui se lisent comme des romans. Le plus connu, c'est bien sûr L'Étoffe des Héros, l'envers de la fameuse épopée spatiale américaine.
Alors, vous avez rencontré Tom Wolfe à plusieurs reprises et vous avez parlé de son travail.
Alors, Tom Wolfe, le francophile, revendiquait sur son écriture l'influence majeure de 2 maîtres de cette littérature nourrie déjà chez nous de journalisme et d'enquête dès le 19e siècle, Balzac et Zola.
Balzac and Zola. And in my case, particularly Zola, because
Balzac et Zola. Mais surtout dans mon cas, Zola, parce qu'il a fait avec un tel talent, un tel génie, ce que l'on doit montrer dans un roman encore aujourd'hui. Il s'est intéressé à toutes les couches de la société française, tous les secteurs de la vie industrielle. Et dans le même temps, il décrit d'une manière très moderne tous les ressorts psychologiques de l'âme humaine.
Alors Tom Wolfe, c'était aussi une silhouette légendaire.
Ah bah oui, le dandy de Manhattan, toujours sanglé dans un impeccable costume blanc, coiffé d'un chapeau en feutre noir, chaussé de souliers bicolores, quelles que soient les circonstances et les lieux qu'il fréquentait pour préparer ses livres. Pour Bloody Miami, son dernier roman, à nouveau un tableau d'ailleurs sans concession, cette fois de la ville de Miami, il m'avait raconté avec son humour pince sans rire légendaire sa visite d'un club local de striptease.
L'endroit le plus fou a probablement un club de striptease de Miami. Il faut savoir qu'il y en a 143 dans cette ville. Et la Floride est le seul état où les danseuses ont le droit de se dévêtir entièrement. Et les hommes sont absolument obsédés. Quand j'étais pour mes recherches, je me suis aperçu trop tard que j'étais le seul en cravate. J'ai évidemment attiré l'attention du videur qui m'a interpellé. « Mais vous êtes Tom Wolfe ?» J'ai répondu « Oui ». Et il m'a dit « Il y a un journaliste de Miami Herald. Faites gaffe si vous ne voulez pas que votre nom soit dans le journal. »
Voilà. Bon, je crois qu'il s'en contrefichait, hein, que même ça l'amusait, ce genre de situation cocasse. Avec l'élégant Tom Wolfe, le souffle du monde dans ce qu'il a parfois de meilleur et plus souvent de pire, est donc devenu littérature, mais aussi cinéma, car c'est ses 2 plus grands succès ont donné de grands films, n'est-ce pas Stéphane Boutsock, vous qui êtes là-bas sur la croisette.
Oui, en 80, évidemment, l'adaptation du Bûcher des Vanités par Brian De Palma, belle affiche, Bruce Willis et Tom Hanks notamment, et puis 3 ans plus tard, 83, c'est Philip Kaufman qui avait adapté L'Étoffe des Héros, formidable film sur la conquête spatiale avec notamment Ed Harris, Sam Shepard ou encore Dennis Quaid, 2 très très bons films, vraiment.
Exactement, donc on peut revoir, mais on peut aussi bien sûr relire Tom Wolfe, on le trouve chez Robert Laffont qui était son éditeur français, ou en poche.
Merci Bernard Lehu, dans quelques instants, on retrouve nos petits camarades sur la croisette.
RTL Matin,
laissez-vous tenter,
avec Yves Calvi. Festival de Cannes 2018 sur RTL.
Nous partons à présent au 71e Festival de Cannes. Anthony Martin et Stéphane Boutsock sont là-bas, bien entendu. Bonjour les garçons.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et avant d'écouter vos rencontres hollywoodiennes de ce matin, parlons de la présentation hier hors compétition du film Solo, tiré de l'univers Star Wars. Stéphane, c'était un des points culminants de l'édition 2018.
Oui, Rogue One, en 2016, avait lancé une série de films, on va dire, parallèles à l'univers Star Wars. Solo nous montre donc la jeunesse de Han Solo, futur compagnon de Luke Skywalker, amant de la princesse Leia. Ron Howard, qui est à la manœuvre, réussit une prouesse, satisfaire les fans et les profanes de la saga. Si Solo est un épisode mineur, si on regarde l'ensemble des films, il réserve tout de même quelques séquences dantesques façon western. Il y a une poursuite en train assez dingue. Et nous, incroyable, un train du futur, mon petit Steve.
Ah oui, j'ai dit, parce qu'en train de... Non, mais c'est normal qu'en train dans l'espace, on se pose des questions.
Non, sur une planète, je vous rassure. Et il nous permet aussi d'assister à la naissance de l'amitié entre Han Solo et Chewbacca ou de voler dans un Falcon Millennium tout neuf, sans oublier les clins d'œil aux deux premières trilogies de la Guerre des Étoiles. Bref, très joli boulot. On en reparlera demain puisque je rencontre tout à l'heure Ron Howard et Alden Ehrenreich qui jouent Solo avec beaucoup de talent d'ailleurs. Notez que le film sort très vite. Ce sera mercredi prochain, le 23 mai, partout en France.
On passe maintenant à la compétition, Stéphane, avec Spike Lee qui fait son grand retour sur la croisette.
Oui, 16 ans que le réalisateur de Do the Right Thing, Jungle Fever ou The Man Inside n'était pas venu ici. Retour plutôt convaincant avec Black Klansman, polar tiré d'une histoire vraie, celle du premier flic noir à avoir infiltré le Ku Klux Klan dans les années 70 aux États-Unis. C'est lui qui avait noué le contact avec l'organisation raciste en faisant acte de candidature au téléphone, je précise, avant de s'appuyer sur un collègue blanc pour physiquement noyauter le clan. Spike Lee livre un film où humour et message identitaire se fondent. La mise en scène a pris, on va dire, un petit coup de vieux, mais il appuie un petit peu lourdement sa démonstration vers la fin, surlignant le lien pourtant bien réel entre Donald Trump et les suprémacistes blancs, mais le film se termine, et c'est assez rare dans son cinéma, sur un message pacificateur de fraternité. Les dernières images sont tirées de la tragédie de Charlottesville en août dernier. Rappelez-vous quand des extrémistes blancs avaient affronté des contre-manifestants avant qu'une voiture lancée dans la foule ne tue une jeune fille, Heather Heyer, militante antiraciste blanche, à qui le film d'ailleurs est dédié. Spike Lee ému et en colère quand il évoque ce drame.
Cette tragédie s'est produite après le tournage, mais je savais qu'il fallait en faire l'épilogue du film, car nous avons ce type à la Maison Blanche, je ne veux même pas prononcer son putain de nom, qui à ce moment-là n'a pas dénoncé ces enfoirés du Ku Klux Klan. Il aurait dû dire au monde que ça n'est pas l'Amérique. Et que oui, les États-Unis ont été bâtis sur le génocide des Indiens et des esclaves. Nous attendons de nos dirigeants qu'ils nous montrent le chemin et prennent des décisions morales. Ça ne concerne pas que l'Amérique, les Blancs ou les Noirs, mais tout le monde. Ce mec de la Maison Blanche a quand même les codes nucléaires. J'y pense chaque soir en me couchant. Donc pour moi, ce film doit être le signal du réveil.
Moment très fort hier de la conférence de presse de Spike Lee. Le film Black Klansman sortira le 22 août en France.
Autre film, autre rencontre, Stéphane, Lars von Trier et Matt Dillon.
Oui, le premier a dirigé le second dans The House That Jack Built, la maison que Jack a construite. Terrible thriller dont je vous parlais hier matin sur les méfaits d'un effroyable tueur en série fasciné par la représentation du mal au point de vouloir faire de ses crimes atroces des œuvres d'art. Lars von Trier arrive pour l'interview. Je vous le décris, sandales, bermuda, chemise hawaïenne verte et blazer, le mot
élégant.
Fuck tatoué sur les doigts de la main droite. Ah. Oui, très élégant. Question, y a-t-il un petit peu de lui dans ce tueur qui se considère comme un artiste ?
C'est une caricature. Et je précise d'ailleurs que moi, je n'ai jamais tué personne. En fait, mon chat, juste avant de venir à Cannes, c'était un vieux chat. Parfois, on aimerait être un chat que quelqu'un supprime quand l'heure est venue. C'était vivifiant d'écrire à propos d'un psychopathe. J'ai toujours beaucoup aimé Patricia Highsmith, dont un des personnages principaux est psychopathe. Je comprends aujourd'hui que ça permet de pousser les situations à l'extrême, car le tueur en série pense toujours qu'il va s'en sortir et croit en ses chances.
Alors, le film est aussi une véritable résurrection pour Matt Dillon, aujourd'hui âgé de 54 ans, ex-grand espoir hollywoodien qui avait débuté en fanfare, on s'en souvient, dans les années 80 avec deux films de Francis Ford Coppola, Outsiders et Rusty James, puis qu'on avait vu chez Gus Van Sant, avant de disparaître un tout petit peu des écrans radars. Il est impressionnant, vraiment, dans la peau de Jack, tueur sans merci, sans compassion. Lars von Trier lui a en plus permis d'explorer toute une gamme de jeux pour l'incarner.
Je dirais que la règle, c'est de casser toute règle. Tout le monde le considère comme un provocateur, et il l'est bien sûr, mais c'est parce que pour lui, c'est la meilleure façon de faire avancer les choses. Et ses choix sont dictés par l'émotion, la poésie. Ça me faisait songer à cette phrase de Charles Bukowski. Quand vous faites une chose dangereuse avec élégance, c'est de l'art. Et moi, quand j'ai lu ce scénario, je me suis senti coupable, car tout cet humour noir m'a fait rire. Mais attention, je ne cherche en aucun cas à minimiser les actes commis par Jack. Non, ce film reste très compliqué pour moi à regarder. Il a été difficile de le tourner parfois.
Hit the Road Jack de Ray Charles qui referme le très impressionnant The House That Jack Built de Lars von Trier. Le film a une date de sortie, ça y est, depuis hier, ça sortira le 3 octobre en France.
Et après Spike Lee, Lars von Trier et Matt Dillon, on poursuit notre parcours canois avec vous, Anthony Martin, et votre rencontre du jour, John Travolta.
Oui, barbe de 3 jours, cheveux poivre et sel, Travolta est à l'honneur ici à Cannes pour plusieurs raisons. Il a présenté hier en avant-première son nouveau film, Gotti, un biopic sur, dans lequel il incarne John Gotti, un parrain de la mafia new-yorkaise des années 80. Cet après-midi, il donnera une masterclass sur sa carrière et le cinéma, et ce soir, il lancera sur la place de Cannes, la projection de ce film. Voilà, avec les chœurs, le festival de Cannes fête en effet les 40 ans de Grease, sorti en 1978, un film devenu culte, John Travolta.
C'est un des films dont je suis le plus fier parce que ça a été un cadeau pour toutes les générations. Ça a rendu tout le monde heureux. Les gens le regardent encore. Ils le montrent à leurs enfants qui adorent parce que c'est intemporel. C'est phénoménal. Je ne connais pas d'autres films qui ont à ce point échappé autant. Rien que moi, j'ai dû le voir une quinzaine de fois. On a vraiment fait là quelque chose de formidable. Non, je ne suis pas sûr qu'on fasse une suite.
Voilà, John Travolta, détendu, il est en famille ici à Cannes avec femme et enfants. On a poursuivi la discussion sur deux de ses films marquants et bien sûr Grease en fait partie.
Grease et Pulp Fiction, je les aime pour ce qu'ils ont apporté au public. C'est une telle satisfaction de rendre les gens heureux. On m'a demandé si je faisais exprès de choisir des films qui deviennent cultes et qui s'inscrivent dans la culture populaire. Je ne sais pas, j'agis à l'instinct. Quand j'étais enfant, je me suis nourri de succès populaires, mais je ne pouvais pas savoir que des films comme Saturday Night Fever, Pulp Fiction ou Grease allaient le devenir. Moi, pour choisir un film, j'ai pas besoin de me sentir à l'aise. J'ai besoin d'être confiant. Dans Pulp Fiction, croyez-moi, j'étais vraiment pas à l'aise quand j'ai dû tuer en pleine tête. J'avais du sang plein le visage. Mais j'avais confiance. Les acteurs doivent savoir où ils vont. Mais je reviens quand même sur Grease. Oui, pour celui-là, j'ai jamais senti venir le succès. C'était un tel triomphe à Broadway. J'avais joué un petit rôle sur scène et j'avais vu les réactions. Pour le reste, je ne savais rien. On fait les choses, ça prend ou ça ne prend pas.
Voir Grease, c'est toujours au Théâtre Mogador à Paris, à l'affiche juste après.
8 juillet.
Formidable.
C'est un spectacle RTL d'ailleurs.
En plus.
Je lui ai dit à John Travolta qu'il y avait un spectacle. Non mais c'est vrai, je lui ai dit qu'il y avait un spectacle qui cartonnait à Paris avec RTL et qu'il fallait qu'il aille le voir s'il était de passage sur la capitale. Dans la capitale. Voilà, le succès de Grease, je l'avais quand même vu venir, c'est ce que nous dit donc Travolta 40 ans après. Oui. L'acteur est donc à l'honneur aujourd'hui à Cannes.
Anthony et Stéphane, merci beaucoup pour cette belle affiche. On va continuer à gâter nos auditeurs cinéphiles. Puisque nous leur offrons ce matin au 3210 des coffrets DVD Prestige édités pour les 95 ans de la Warner avec trois films cultes de Stanley Kubrick, Shining, Orange Mécanique et Full Metal Jacket. Il suffit pour cela de répondre à cette question que vous pose immédiatement Stéphane.
D'ailleurs, lundi matin, on a fêté le week-end dernier l'anniversaire de 2001, l'Odyssée de l'espace, autre classique de Kubrick. Le film est-il sorti en 1968 ou en 1978 ?
Votre réponse au 3210. On vous retrouve demain, Stéphane. Mm-hmm. Vous nous ferez partager votre rencontre avec l'équipe du film Solo.
Comptez
Star
sur
Wars
moi.
Story.
Ah, comptez
ça,
sur
je
moi.
Sais que ils ne sont pas solo. Je compte sur vous et ils ne seront pas sur vous. Attendez, remettez-nous un petit Chewbacca là.
On l'a vu hier, on l'a croisé.
Il est vraiment trop chou, Chewbacca.
Il est chou.
Il fait 2m20 quand même.
Il doit avoir chaud avec tous ses poils à la canne.
Oui, mais il y a l'eau, vous savez, il peut se baigner.
Ah, non, puis il a vraiment du texte.
Hein. Il se détend et il est très, très, très juste sur ce texte. Il est très juste, Chewbacca. Allez, à demain. Françoise Fabian dans un instant. Maintenant, elle chante.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
La musique maintenant, elle a tourné sous la direction de Buñuel, d'Éric Rohmer, d'Yves Robert, de Claude Lelouch ou encore de Jacques Demy. Et à 85 ans, Françoise Fabian publie vendredi son tout premier album. Il porte son nom, Stephen Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré la comédienne qui devient chanteuse.
Et son album est une formidable surprise, Françoise Fabian. Une grâce, une classe qui transpire dans ses 12 chansons inédites. Voici l'une d'elles, Tant de choses que j'aime.
Les abats, ma tour d'ivoire. J'ouvrirai mon lit ce soir à toutes ces choses que j'aime, tant de choses que j'aime, et l'âme délivrée de l'espoir, j'affranchirai de leur devoir toutes ces choses que j'aime, tant de choses que j'aime. Je ne chercherai plus, non, ce qui a pu me plaire en vous, dépasser toutes les saisons, ne reste plus que les mots doux. Je ne chercherai plus, non, ce qui m'a fait croire en vous, déplacer vers l'horizon, vous en reviendront jusqu'à nous.
Cet album est né grâce à une rencontre. En 2015, paraît un livre accompagné d'un CD sous le nom « Les gens dans l'enveloppe ». Bernard Lehu nous en avait parlé,
oui,
évidemment.
Isabelle Monin.
Exactement.
Oui.
Et c'est Alex Baupin qui avait piloté l'aspect musical du projet et invité Françoise Fabian sur deux morceaux. Oui. Coup de foudre artistique entre les deux artistes. Baupin veut alors lui faire tout un disque. La comédienne appelle quelques amis. Tous acceptent de lui écrire des chansons. Jean-Claude Carrière, Charles Aznavour, Vincent Delerme, Dominique A, la grande Sophie. Et l'album se construit rapidement. De quoi donner aujourd'hui le tournis à Françoise Fabian.
C'est pas possible ce qui m'arrive, enfin j'arrive pas à y croire. Hein. C'est très surprenant parce que je fais cet album parce que j'ai un goût immodéré des chansons depuis mon enfance. Donc il était indispensable pour moi de m'offrir ce luxe de faire un album de chansons que j'aime. Puis tout d'un coup c'est devenu une réalité. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça devienne une réalité. Et puis là, j'ai été prise dans un engrenage. Alex m'a entraînée dans son grand mouvement de créateur et je lui ai fait confiance. Et puis on en arrive là. Et voilà. Et maintenant, je suis au pied du mur. C'est enivrant. C'est comme un cadeau que vous fait la vie. J'aimerais tellement que ça marche. Ça voudrait dire que j'ai cru à quelque chose et que j'ai réussi.
Et nous attendons tous pareil. Des platanes rouillés, du goudron fondu. Des après-midi au soleil, des garçons riaient et des filles pieds nus. Allons boire la tasse, la nuit va tomber et je veux revoir. Là quand tu m'embrasses, là sur le gravier, là derrière la gare, bonsoir.
Alors on vient de l'entendre, avec cet album, Françoise Fabian, Stephen réalise en fait un ancien rêve.
Eh oui, enfant, elle a appris le piano au Conservatoire de musique d'Alger, où elle est née. Françoise Fabian a poussé la chansonnette plusieurs fois au cinéma, à la télé notamment. Elle avait même signé un contrat avec une maison de disques il y a des années qu'elle n'avait pu honorer. Françoise Fabian raconte sa vieille passion pour la musique.
J'ai toujours aimé chanter, depuis que je sais parler. D'ailleurs, je vais vous dire une chose qui va être complètement ridicule, c'est que j'ai su monter la gamme avant de chanter. Mon père était trompettiste et il me faisait monter la gamme alors que je ne savais pas encore parler. Donc vous voyez bien que la musique est profondément ancrée en moi. J'ai chanté avant d'être comédienne, j'ai fait de la musique, sans faire de calcul, sans me projeter dans l'avenir. Je chantais des chansons à 5 ans. J'ai chanté des chansons de chanteuses réalistes, des Léo Marchane, Lucienne Delisle et tout ça. Toutes ces chansons d'amour que je trouvais absolument merveilleuses. Et je me racontais des histoires, même toute petite. Oh, la chanson, c'est un indispensable. Ce diable d'homme, gorgé de sève. Ce personnage hors du commun, n'obéissant qu'à ses instincts, qu'avait pas de place en mes rêves, j'en rêve. Ce diable d'homme, c'est le mien.
Ce diable d'homme, cadeau d'Aznavour à Françoise Fabian, où elle susurre « J'ai peut-être un peu trop rêvé au cinéma ». De sa voix chaude, envoûtante, elle dresse en filigrane le portrait d'une femme. L'écrin musical est à son image, d'une grande élégance. Au fil des titres, elle évoque pêle-mêle le temps qui passe, la distance qu'offre l'âge, la gourmandise de la vie, l'homme idéal et la mort qu'elle tutoie dans la chanson « L'idée ».
J'ai souvent caressé l'idée qu'un jour, je partirai. Tout le temps, et ça me fait pas peur. Et la mort, ça fait partie de la vie. J'ai apprivoisé l'idée de la mort. La mort, c'est la dépendance. La dépendance physique et mentale, c'est ça, la mort. La mort, c'est un passage. La mort, c'est une expérience de vie. Et ça ne me fait pas peur du tout. Je suis pas croyante. Donc, je trouve ça tout à fait normal de vivre, d'essayer de bien vivre, de faire des choses qu'on a envie de faire. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir envie de faire des choses et de les avoir faites. J'ai eu de la chance de rencontrer des gens que j'aimais et qui m'aimaient. Et puis voilà, tout le monde va mourir. C'est pas grave. Tant que je suis pas morte, j'existe. J'essaie d'exister le mieux possible. C'est une drôle d'idée. Ce n'est pas une idée triste. Ni regret, ni remords.
C'est l'un des albums les plus réjouissants du printemps. Il porte tout simplement son nom. Françoise Fabian publie son tout premier disque vendredi prochain. Prochaine étape, la scène. Elle chantera le 7 juillet au Fnac Live Festival à Paris, les 19 et 26 novembre, puis le 3 décembre au Théâtre de l'Athénée à Paris.
On lui a donc fait un écrin musical à la hauteur de son talent. Merci beaucoup Stephen Bellery pour ce merveilleux moment que nous venons de passer avec Françoise Fabian. Dans quelques instants, nous vous donnons des cadeaux et ils sont magnifiques ce matin. On se sépare avec toute l'équipe et on accueille Julien Courbet.
RTL Matin, laissez-vous tenter avec Yves Calvi.
Le cadeau que nous vous offrons aujourd'hui, ce sont des coffrets DVD Prestige édités pour les 95 ans de la Warner, je vous le rappelle, avec trois films cultes de Stanley Kubrick, Shining, Orange Mécanique et Full Metal Jacket. Et pour gagner tout cela, il fallait répondre à cette question. On a fêté le week-end dernier l'anniversaire de 2001, l'Odyssée de l'espace, autre classique de Kubrick. Le film est-il sorti en 1968 ou en 1978? La réponse de Stéphane Boutsock.
Ah bah ça fait un demi-siècle, donc 50 ans. Pile. Mais
68 était donc la réponse. Merci beaucoup. On vous retrouve demain à Cannes avec grand plaisir.
Mais oui.
Je vous signale que demain, nous aurons le plaisir d'accueillir en direct Marc Lavoine pour la sortie de son premier album depuis 6 ans.
Oui.
Je vois que Stephen Bellery me fait oui avec la tête. Et j'espère qu'on va avoir aussi un grand oui de Julien Courbet qu'on retrouve avec plaisir.
Alors moi, je fais oui, mais contrairement aux journalistes, je ne le fais pas avec la tête.
Non.
Et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais je vous ai fait un oui également. C'est bien moi qui suis là. Voilà. C'est... Comment ça va?
Bah écoutez, vous savez, moi, quand je vous retrouve, généralement, je suis de bonne humeur.
Calvi, t'as les pieds carrés. Voilà, nous on est en plein dans l'ambiance, je vous assure. On est dedans, mais alors complètement.
Vous êtes à fond dedans?
Ah, complètement. Il y a Julien Fautra qui sera sur le Vieux-Port avec nous de temps en temps. Ça va être super. Belle journée en tout cas aujourd'hui, hein, pour nous tous, pour la France. Bon Yves, bonne journée.
Bon, allez l'OM et bonne émission.
Ça marche, c'est parti.
Vous écoutez RTL.